Bonjour Charline, merci à vous de nous rejoindre à distance, il est vrai. Alors, vous faites partie de l'équipe du Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire, et comme c'est la première fois que vous intervenez dans Toucher Terre, peut-être pourriez-vous parler pour commencer de votre rôle et de vos missions au sein du Conservatoire.
Bonjour, donc je suis Charline Tefaut et au sein du conservatoire, je suis en charge de l'animation d'un groupe de travail régional consacré aux plantes invasives. Et c'est un groupe de travail qui a pour objectif de coordonner les actions relatives aux plantes invasives en animant un réseau d'acteurs.
Alors, c'est justement ce qui nous réunit aujourd'hui, les fameuses plantes invasives. Charline, il me semble que ce terme mérite des éclaircissements. Quelle est la définition officielle, si j'ose dire, d'une plante invasive?
Alors, pour parler de plantes invasives, il faut considérer quatre critères. Donc, une plante invasive, c'est une espèce végétale qui est déjà qualifiée d'exotique. Donc, elle a été introduite par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle. Ensuite, c'est une espèce qu'on dit naturalisée. Ça signifie qu'elle est capable de survivre et de se disperser sans intervention humaine. Donc, au contraire de nos plantes potagères pour lesquelles on va devoir prodiguer des soins pour pouvoir faire en sorte qu'elles survivent. Donc, une plante invasive, elle est capable elle est autonome dans le milieu naturel, elle va se reproduire sans l'intervention humaine. Le troisième critère pour parler de plantes invasives, c'est qu'elle va être proliférante. C'est-à-dire qu'elle va être capable de se multiplier très très rapidement. Et puis enfin, le quatrième critère, c'est que c'est une plante qui va avoir des impacts écologiques. Ça veut dire qu'elle va prendre l'espace d'autres plantes qui vivent naturellement chez nous. Ça va modifier la faune, les animaux qui vont être liés à cet écosystème, etc. Mais c'est aussi une plante qui peut avoir des impacts sanitaires ou des impacts économiques. Donc des impacts sanitaires, on peut citer l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui va être une plante allergisante, très allergisante, et contre laquelle on va essayer de lutter voilà, pour éviter ces impacts. Quand une espèce végétale réunit ces quatre critères, en fait, on va parler de plantes invasives ou de plantes exotiques envahissantes. Ce sont deux synonymes.
D'accord. On va reprendre certains des critères que vous venez de nous présenter. Par exemple, ces plantes qui sont introduites, est-ce qu'elles viennent forcément de très loin?
Elles viennent d'autres continents en général. On peut citer par exemple la Jussie, cette plante que certains de vos auditeurs connaissent sans doute, qui fait des petites fleurs jaunes et qu'on voit en bord de Loire ou qu'on peut retrouver sur des plans d'eau. C'est une plante très jolie qui va nous provenir d'Amérique du Sud. On l'a introduite en fait pour ses qualités ornementales.
Est-ce qu'on sait justement comment ces plantes sont arrivées en France? Est-ce que bah voilà, ce sont des plantes ornementales ou est-ce qu'il y a plusieurs cas de figure?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. La majorité des cas d'introduction, ce sont des introductions volontaires. On les a ramenées chez nous pour leur qualité ornementale ou parce qu'elles avaient une bonne appétence pour les animaux. Voilà, donc ça, ce sont les introductions volontaires. Mais il y a aussi le cas des introductions involontaires où, par exemple, on va retrouver dans les mélanges pour oiseaux, les graines de tournesol qu'on peut donner aux oiseaux pour les nourrir en hiver, on peut retrouver des graines d'ambroisie qui est une espèce exotique envahissante. Et donc, sous nos mangeoires, on peut retrouver cette espèce-là qui pousse. Donc, ça, c'est des introductions involontaires.
Je pense que certains de nos auditeurs vont se poser la question, est-ce que finalement ça n'a pas toujours existé?
En fait, le vivant, il n'y a pas de frontières pour le vivant. Donc, à partir du moment où les humains se sont déplacés, effectivement, les espèces végétales et animales se sont déplacées avec nous. Mais c'est vrai qu'avec la mondialisation, les échanges qui se sont renforcés entre les pays, le phénomène s'est amplifié finalement.
Très bien. Alors, quel problème pose l'implantation de ces végétaux? Vous en avez évoqué plusieurs. Peut-être que le principal, c'est le fait de nuire au développement d'espèces locales?
C'est ça, tout à fait. Étant donné la nature de ces espèces-là, notamment le caractère proliférant, elles peuvent prendre la place d'autres espèces végétales et on peut se retrouver dans certains cas à avoir des surfaces assez conséquentes recouvertes d'une seule plante. C'est ce qu'on appelle les populations monospécifiques. Et donc là, on n'a plus de biodiversité et donc on a moins de résilience du milieu. Et en plus de ça, ça prend la place d'autres espèces.
Vous avez déjà cité quelques exemples, on peut peut-être en reprendre d'autres. Quelles sont les plantes invasives qui posent le plus de problèmes en France aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on a la Jussie qui est assez connue. Donc on a deux espèces de Jussie qui sont invasives et qui va poser des problèmes à la fois sur la biodiversité, puisque on a des populations où on retrouve sur des surfaces que cette plante en fait. En plus de ça, cette espèce, elle va poser des problèmes pour les usages, pour les pêcheurs, la navigation. Donc, on va être obligé de lutter, de gérer, donc de dépenser des moyens humains et des moyens financiers pour contrecarrer ces impacts négatifs, en fait. Donc ça, c'est la Jussie. On peut aussi parler de l'ambroisie à feuilles d'armoise, dont on va parler beaucoup dans les prochaines années, puisque c'est une espèce pour laquelle tous les départements doivent prendre maintenant un arrêté préfectoral de lutte avec une obligation de gestion de cette espèce, puisqu'elle provoque des allergies. Elle est très, très allergisante et donc des problèmes sur la santé humaine. On peut évoquer aussi le cas de la renouée du Japon, qui est bien connue sur les territoires où elle est présente, puisque c'est une espèce, une fois qu'elle a été introduite, c'est très très compliqué de la gérer et on ne peut même plus l'éradiquer. Donc il faut apprendre à vivre avec et à la contenir en fait pour éviter ses impacts négatifs.
Est-ce qu'il y a peut-être des milieux naturels qui sont plus sensibles que d'autres à l'arrivée, peut-être la prolifération de ces plantes?
Alors tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un milieu est dans un mauvais état écologique, il va être plus favorable en fait à l'arrivée de plantes invasives. Quand on met en place aussi des travaux sur un territoire, ça perturbe le milieu, ça met le sol à nu et les plantes invasives peuvent s'y introduire beaucoup plus facilement. Et puis, au niveau de la Loire, on va retrouver tout un cortège de plantes invasives, aussi bien des plantes aquatiques, avec des élodées, voilà. Ensuite, on va passer aux Jussiques, on va voir apparaître qui vont s'implanter sur le bord des berges. Et puis ensuite, derrière cela, si on remonte un petit peu, on va avoir des asters, des solidages, etc., pour arriver jusqu'aux arbres invasifs un peu plus haut, un peu plus loin du cours d'eau, comme l'érable Negundo, par exemple.
Tout à l'heure, vous évoquiez le fait de contenir ces plantes. Alors, de quelle façon? D'ailleurs, faut-il les contenir ou les éradiquer?
Alors en fait, ça dépend. Parfois, c'est impossible d'éradiquer. Je parlais de la renouée du Japon tout à l'heure. Il faut vraiment dépenser beaucoup de moyens, beaucoup de techniques en fait pour arriver à éradiquer. Donc voilà, on ne va pas forcément chercher cela. Dans certains cas, on va chercher juste à les contenir, qu'elles ne se diffusent pas plus que cela. Donc, suivant les espèces, ça va être faire des barrières végétales, ça va être gérer juste les pourtours pour pas qu'elles continuent à proliférer. Et puis, dans certains autres cas, quand on a une nouvelle espèce invasive sur un territoire et qu'on n'a pas une grosse population de formées, là, ça vaut le coup d'éradiquer. En fait, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup de moyens, finalement, en tout cas moins de moyens que si on la laisse proliférer. Donc, dans le cas d'une introduction sur un territoire de plantes invasives, il vaut mieux viser rapidement l'éradication. Et puis, dans le cas d'une installation plus ancienne, avec des populations plus vastes, dans ce cas-là, il faut au moins contenir, ou éviter de transporter la plante pour qu'elle se retrouve ailleurs.
Alors, Charline, tout ça nécessite des informations, alors pour le grand public, mais pas seulement pour les professionnels que vous êtes. Et ça tombe bien puisqu'un centre de ressources national a été créé. Alors, quel est son rôle et de quelle façon y participez-vous?
Alors, moi, je coordonne un groupe de travail régional. Donc, nous, on fait le lien sur les territoires vis-à-vis de cette problématique, mais nous sommes très en lien avec ce centre de ressources national, ainsi que le centre de ressources Loire Nature, qui est coordonné par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, puisque la nature n'a pas de frontières, puisque c'est une problématique récente et qu'on a besoin d'avoir des retours d'expérience. Comme il n'y a pas de solution un petit peu clé en main pour gérer les espèces invasives, on est obligé de se nourrir les uns les autres et de se renseigner.
Ça passe aussi par peut-être le fait de faire des inventaires?
Oui, tout à fait. Avant de savoir contre quoi on lutte et s'il faut gérer, effectivement, faut connaître. Et mon collègue qui travaille avec moi sur le groupe de travail plantes invasives, donc qui est botaniste, au Conservatoire botanique national du bassin parisien, va réaliser des inventaires, des cartographies, et ainsi on pourra dire en région quelles sont les priorités d'action pour éviter une prolifération de ces espèces-là excessive.
Sylvain, alors vous qui êtes garde animateur en charge de la gestion des sites de notre département, de quelle façon abordez-vous cette question des plantes invasives? Est-ce que par exemple ça a nécessité pour vous et l'équipe du conservatoire une formation particulière?
Alors, on n'a pas de formation particulière justement sur la gestion des plantes invasives, parce qu'en fonction des espèces, en fait, la gestion se fait au cas par cas en fonction du contexte, d'où la nécessité d'être en lien avec le groupe de travail plantes invasives, qui centralise justement tous les retours d'expérience. Comme ça, chacun ne mène pas son opération sur une espèce indésirable. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, au moins on sait s'il y a des opérations qui fonctionnent, d'autres non. Et quand il y a des actions qui sont novatrices et qui n'ont pas encore été expérimentées, ça permet également de faire un retour d'expérience qui est centralisé par le groupe de travail.
Est-ce que vous avez déjà été amené à contenir des plantes invasives sur les sites du conservatoire en Eure-et-Loir?
Effectivement, on est confronté à cette problématique sur plusieurs de nos sites. Par exemple, il y a 5-6 ans, on a dû arracher des arbres à papillons, qu'on appelle le buddleia, au niveau de la réserve naturelle de la vallée des Cailles. Donc là, aujourd'hui, ces espèces-là ont disparu. L'arrachage a bien fonctionné. En ce moment, on est en train de faire une gestion de la renouée du Japon sur le site de l'étang de la Bonnette, où là, on n'arrive pas au final à éradiquer cette espèce, mais on la contient par un arrachage manuel et mécanique. Et également sur le site de l'étang de Lille, où là, il y a un petit peu plus de 5 ans, on a fait une grosse opération d'arrachage à la pelle mécanique, toujours de la renouée du Japon, sur une grosse station. Et là, ça a été concluant puisque la renouée a quasiment disparu. Et là, cette année, il y a également une plantation sur une autre station, toujours à l'étang de Lille, de surouillèbles qui va venir concurrencer la renouée du Japon en termes d'ensoleillement, puisqu'on ne peut pas accéder mécaniquement à cet endroit-là. Et en plus, comme la station est très exposée au niveau de la lumière, c'est pas sûr que mécaniquement ça fonctionne. D'où le fait de planter le sureau pour concurrencer la renouée. Dernier site où on est confronté aux espèces invasives, il y a aussi au niveau de la vallée de l'Aigre, à la Ferté-Villeneuil, où là c'est une petite espèce qui s'appelle la balsamine de l'Himalaya, qui est une plante annuelle qui fait énormément de graines et là qui a envahi une bonne partie du site. Et là par contre, on met en œuvre du pâturage avec le conseil départemental, et ça c'est une première au niveau national.
Alors, quels sont justement les moyens pour vous de contenir ces espèces?
Alors le pâturage, au final, c'est pas une technique qui est très courante pour gérer les plantes invasives. Par exemple, sur la renouée du Japon, ça fonctionne pas très bien. Là, au final, au niveau de la balsamine de l'Himalaya, on a découvert ça par hasard, parce qu'en fait, on gérait une partie du site par pâturage, avec le cheptel du conseil départemental, qui sont des petits moutons d'Ouessant. Et il y avait la présence de la balsamine là où les moutons pâturaient. Et on s'est rendu compte que les moutons consommaient en priorité la balsamine. Donc c'était très appétant. Donc là, cette année, on a carrément créé un nouvel enclos de pâturage sur une grosse station de balsamine. Et là, on s'est rendu compte effectivement que les moutons étaient friands de ça. Et par rapport au recul de là où ils ont pâturé l'année dernière, a priori, la balsamine est déjà en train de régresser sur ces parties-là. Après, pour la majorité des espèces invasives, c'est de l'intervention soit manuelle par arrachage, ou soit mécanique, toujours de l'arrachage, ça peut être de l'écorçage. Ça dépend vraiment de l'espèce indésirable qui est présente.
Est-ce que le conservatoire au niveau départemental a une action peut-être pédagogique vis-à-vis du grand public qui est amené à visiter les sites?
Complètement. Notamment, bah, par exemple, lorsqu'on fait les animations sur les papillons, on sensibilise justement à l'aspect plante invasive, parce que très souvent, il y a des personnes qui disent, ah bah chez moi, j'ai un arbre à papillons, un buddleia. Et là, justement, on les informe qu'au final, c'est pas une espèce qui est très intéressante et qui en plus est invasive. Donc, en général, les participants sont très surpris. Donc, il suffit de leur donner les arguments. Pour leur montrer qu'au final, c'est pas rendre service à la nature de planter des buddleias dans le jardin, puisqu'au final, ça attire certes des papillons, mais qui sont assez communs, mais en plus, pendant que ces papillons se concentrent sur le buddleia, en fait, ils vont pas polliniser les autres espèces, qui elles, par contre, sont indigènes. Donc, au niveau de la pollinisation, c'est pas l'idéal. Et lorsqu'il y a des plantes invasives directement sur les sites conservatoires, on fait des animations, et ben, ça permet d'aborder également cette thématique et de faire de la pédagogie sur ces espèces.
Charline, est-ce qu'on trouve facilement des informations concernant ces plantes invasives? Et puis, quel rôle peut jouer le citoyen, peut-être l'amoureux de nature dans tout ça?
Alors, tout à fait, on peut retrouver beaucoup d'informations sur les plantes invasives, sur ces centres de ressources, donc nationales ou centres de ressources Loire-Bretagne. On peut également trouver des informations au niveau des conservatoires d'espaces naturels ou des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et puis, en tant que citoyen, on peut agir. La première chose à faire, en fait, c'est de se renseigner sur quelles espèces posent problème par chez nous. Et pour ça, il existe une liste de plantes invasives régionales que vous pouvez vous procurer auprès de votre conservatoire ou des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et la première action va être de ne pas planter ces espèces-là, de ne pas acheter ces espèces, de ne pas les planter. Donc, il y a une liste de 41 espèces en région. La deuxième chose qui est très importante, c'est de ne pas transférer dans le milieu naturel le contenu de nos aquariums, nos déchets verts, puisque les principales sources d'introduction, finalement, viennent de là, de nos jardins, de nos aquariums, de nos bassins. Donc, surtout ne pas les transférer dans le milieu naturel. Et déjà, on évitera vraiment tout un tas d'introductions. Et puis une autre manière d'être acteur dans cette problématique-là, c'est si on a une plante invasive, on identifie une plante invasive chez nous et qu'on souhaite l'éliminer ou la gérer, il faut absolument se renseigner avant sur sa manière, sur la manière dont il faut la gérer. Puisque si je prends le cas de l'élan, donc qui est un arbre invasif, qui est très joli par ailleurs. Si on décide de le couper, en fait, ça va être complètement contre-productif puisque l'arbre va se sentir agressé et qu'il va rejeter énormément. Et donc, ça va créer tout un tas de plantules qu'il va falloir gérer par la suite. Donc, il ne faut surtout pas le couper. Voilà, donc il faut bien se renseigner avant de gérer les espèces. Et puis, le groupe de travail plantes invasives ou les centres de ressources ont des spécialistes qui peuvent accompagner les acteurs pour savoir comment gérer, pour identifier les espèces, etc. Donc, faut pas hésiter à vous renseigner auprès soit du groupe de travail directement, soit auprès de vos associations locales.
Alors, Charline, pour finir, une dernière question. Cette liste des espèces invasives, finalement, elle ne sera sans doute jamais exhaustive. Il y a toujours de nouveaux ajouts. Est-ce que ça, c'est peut-être amplifié par le réchauffement climatique?
C'est une question que l'on se pose actuellement. A priori, le réchauffement climatique a un impact effectivement sur la prolifération des plantes invasives. Ce sont des espèces qui s'adaptent très très facilement et très rapidement par rapport aux nôtres. Et on pense qu'à l'avenir, effectivement, on pourrait avoir un renforcement en fait de l'impact de ces plantes-là. Mais c'est des sujets qui sont encore un petit peu nouveaux et il y a des études en cours actuellement pour préciser tout cela.
Que l'on suivra grâce à vous.
Merci beaucoup.